en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
La connaissance des temps a été créée en 1679 par Joachim d'Alençay. Publiée sous la responsabilité du Bureau des Longitudes depuis 1795, elle est toujours parue sans interruption depuis sa création. Transformée en almanach nautique par Jérôme Lalande en 1759, la connaissance des temps gardera sa connotation maritime dans son contenu jusqu'au début du XXe siècle et dans son titre jusque dans les années 70, alors que les marins s'étaient depuis longtemps tournés vers d'autres éphémérides, davantage en adéquation avec leurs besoins. Guy Bouestel, docteur en histoire des sciences et des techniques, examine l'histoire de la plus vieille éphéméride astronomique sous l'angle des relations souvent orageuses entre astronomes et marins, entre ses éditeurs et ses utilisateurs, mettant ainsi à jour une histoire humaine mouvementée qui est longtemps demeurée cachée derrière ces redoutables colonnes de chiffres. Écoutez sa communication, elle s'est déroulée en février 2009 au Bureau des Longitudes à l'Institut de France.
Pourquoi parler de bréviaire pour les astronomes et les marins en parlant de la connaissance des temps ? J'emprunte cette dénomination à un exposé fait en 1875 par un ingénieur hydrographe de la marine, qui est Adrien Germain, devant la Société de géographie de Paris en réponse à une conférence donnée par l'astronome russe de Poulkovo, le grand Otto Struve, en février 1870. Dans cette conférence sur le choix d'un premier méridien connu tardivement en France, elle est traduite du russe par Germain, Struve se lance dans une critique sur la qualité de la connaissance des temps, dont vous avez un extrait ici, que je vous lis. C'est à regret qu'on voit encore calculer et publier dans d'autres pays, tels que la France, l'Espagne et l'Italie, des éphémérides rapportées aux méridiens locaux de leurs observatoires. Nous avons tout droit de dire « à regret », car sans parler de la perte de force et d'argent qui résulte de leur publication, l'emploi de ces éphémérides au lieu des anglaises ne mène qu'à des malentendus et des résultats moins exacts. Ces considérations ont amené l'illustre directeur de l'Observatoire de Paris, M. Le Verrier, à interdire l'usage dans cet établissement confié à ses soins des éphémérides publiés par le gouvernement français et connus sous le nom de connaissance des temps, tenus naguère en haute estime par les astronomes et tombés depuis une dizaine d'années au-dessous des exigences de la science. Il est hors de doute que les autres nations feraient beaucoup mieux de suivre en cette matière l'exemple donné par le très auguste président de notre société. La réponse de Germain est plutôt une réponse de défense presque nationaliste. Donc après avoir repris toutes les considérations de Struve sur l'opportunité de choisir le méridien de Greenwich parmi d'autres méridiens premiers, il revient sur la critique de Struve sur la connaissance des temps, et c'est lui qui parle de bréviaire des astronomes et des marins. Et il fait allusion au travail qu'a commencé Maurice Levy, qui a été nommé en 1872, dans le regain de précision et de qualité des éphémérides de la connaissance des temps. Le décor est donc en somme planté, il nous faut remettre dans son contexte de revendications scientifiques et nationales ces débats. Donc la connaissance des temps est à l'origine une entreprise semi-privée, et Joachim d'Alençay, un physicien météorologue astronome, crée cette éphéméride à la toute fin de l'année 1678. À l'époque, n'existe que de petits almanachs connus sous le nom d'étrennes, donnant les levers et couchers du soleil, bâtis sur des tables plus ou moins connues, ou inconnues même. Les astronomes emploient un nombre très restreint de tables astronomiques sous des formes abruptes où tout est à faire. L'idée est donc de simplifier en partie les calculs astronomiques et d'établir des agendas astronomiques où figure l'essentiel, une centaine de pages. C'est le volume des tables de la connaissance dès son origine et pendant plusieurs décennies. Les astronomes Jean Picard puis Jean Lefebvre de l'Académie des sciences entrent dans le projet. On y trouve, en plus des exposés pour la mesure de l'heure à l'aide d'observations astronomiques, l'heure locale, la détermination de l'heure locale à l'aide des observations de la hauteur des étoiles, des tables des marées. Après 1680, on commence à trouver les émersions et immersions des satellites de Jupiter pour la détermination des longitudes sur Terre, les passages de la Lune au méridien de Paris, des considérations sur la déclinaison magnétique de la boussole. En 1700, les astronomes Lahire, père et fils, sont accusés par Jean Lefebvre d'avoir falsifié des observations, bref, d'avoir été des astronomes malhonnêtes. L'Académie somme Lefebvre de se rétracter, ce qu'il ne fait pas, et à la suite de plusieurs absences répétées, il est exclu de l'Académie royale des sciences. Le comte de Pontchartrain transfère alors les éphémérides sous le contrôle de l'Académie royale des sciences. Plusieurs astronomes se succèdent jusqu'en 1759. Lorsque le rédacteur est élu pensionnaire, il doit laisser sa place à un membre de l'Académie d'un rang inférieur et élu en séance. La pension octroyée pour ce travail est de 800 livres jusqu'en 1760. Celle d'un pensionnaire, je vous le rappelle, est de 1200 livres. Revenu non négligeable, donc. Jusqu'en 1760, le rédacteur est seul, mais certaines décisions du contenu sont décidées par une commission académique. Donc Jacques Lyotot, Louis Godin, puis Giovanni Maraldi, Maraldi II, sont responsables de la connaissance des temps. Quelques améliorations notables sont apportées, surtout sous Godin, puis Maraldi. On commence à savoir quelles sont les tables employées pour les calculs. Une meilleure présentation des éphémérides des satellites de Jupiter. On trouve les adresses des membres de l'Académie, des cartes d'éclipse, ce qui donne déjà à la connaissance des temps sa richesse bibliographique, bibliophilique et historique. Je reviendrai sur les autres époques. Les premières critiques sur le contenu de la connaissance des temps datent d'ailleurs des années 1750. En 1754-55, l'abbé Brancas de Villeneuve crée ses propres éphémérides cosmographiques pour y faire tout ce qu'il n'y a pas dans la connaissance des temps, table pour les marins, occultation, etc. Le père Pingré est amené par l'astronome Pierre-Charles Lemonnier à calculer 4 volumes d'un état du ciel destiné à des calculs nautiques basés sur la méthode des hauteurs de la Lune, concurrente des distances lunaires que prônent l'abbé Lacaille et l'officier de la Compagnie des Indes, Jean-Baptiste d'Apren-Manvillette. Lacaille et Lemonnier sont de farouches adversaires. Outre les divergences scientifiques, Lacaille représente l'astronomie nouvelle, Lemonnier une astronomie qui commence à vieillir. La personnalité de Lalande est un autre enjeu. À la suite de son voyage à Berlin, Lalande a produit 3 mémoires sur la parallaxe de la Lune en 1752, 54 et 56. Et un peu comme je l'ai montré dans ma thèse, le changement de clan de Lalande est nettement perceptible. En 1752, Lalande est encore ancien élève et disciple de Lemonnier, puis il passe progressivement dans le clan représentant la nouvelle astronomie et opère le rapprochement avec Clairaut et Lacaille, qui s'occupent du problème des trois corps, l'application au mouvement de la Lune, de nouvelles tables de la Lune et du Soleil, la parallaxe de la Lune, navigation astronomique de pointe. En 1759, Maraldi devenant pensionnaire, Lalande hérite de la charge. La connaissance des temps va devenir sa publication et il va la transformer en profondeur, la propulsant dans la sphère des ouvrages rares, attendus et demandés. L'empreinte de Lalande se fera sentir jusqu'au début du XXe siècle et même plus tard, jusque dans son titre, « Connaissance des temps ou des mouvements célestes à l'usage des astronomes et des navigateurs ». Lalande dirige la connaissance des temps à 2 époques différentes, de 1759 à 1772, puis de 1795 à 1807, sous la première période du Bureau des longitudes. Juste un petit rappel pour ceux qui ne seraient pas familiarisés, mais j'en doute ici dans l'assistance. Donc, déterminer une différence de longitude, ça revient à déterminer une différence d'heure entre 2 méridiens différents. Donc, évidemment, soit on a une horloge à bord qui permet de conserver l'heure du méridien de départ, et puis à ce moment-là, on fait une petite règle de 3, et donc on trouve la différence de longitude, soit on a affaire à des phénomènes astronomiques qui peuvent être très variés, des hauteurs d'étoiles, des passages de la Lune au méridien, et puis ce qui va faire tout le cœur de l'astronomie nautique au XVIIIe siècle, ce sont les distances lunaires, où on va déterminer donc la distance angulaire entre une étoile et le centre de la Lune ou du Soleil. Ça va être la Lune qui va être privilégiée par sa présence, évidemment, dans le ciel plus fréquente. Mais on doit tenir compte de tout un tas de corrections, qui sont les corrections de réfraction atmosphérique et de parallaxe de la Lune, qui jouent en sens contraire, en plus d'autres corrections. Donc, en fait, la méthode des distances lunaires va faire appel à la trigonométrie sphérique et donc à la mise en place de tout un tas de nouvelles tables et, évidemment, des tables de la connaissance de la parallaxe de la Lune. Donc, Lalande intègre peu à peu les préceptes de l'abbé Lacaille. L'abbé Lacaille, en fait, a réfléchi à la méthode des distances lunaires dès 1743, mais comme Pierre-Louis Moreau de Maupertuis était à ce moment-là son supérieur hiérarchique et que lui-même était chargé du perfectionnement de la marine par le ministre Maurepas, eh bien, Maupertuis a fait paraître un certain nombre d'ouvrages, et notamment une astronomie nautique, et l'abbé Lacaille a retiré son projet. Mais juste avant qu'il revienne du Cap de Bonne-Espérance, eh bien, dès 1753, il envoie à l'Académie un projet d'almanach nautique donnant des calculs prémâchés de distance lunaire de 3 heures en 3 heures, avec l'aide de Jean-Baptiste d'Apren-Manvillette, qui est un officier de la Compagnie des Indes, à s'être servi le premier des distances lunaires en 1749. Lalande intègre peu à peu les préceptes de Lacaille, mais ne parvient pas à faire accepter à l'Académie royale des sciences d'intégrer un almanach nautique donnant les tables de distance lunaire ou luni-astrale, précalculées pour le méridien de Paris. C'est l'astronome anglais Neville Maskelyne qui réalise le projet de Lacaille avec le Nautical Almanach en 1766. L'Académie de marine de Brest projette en 1769-1770 de traduire et d'adapter ses éphémérides en français, mais le ministre de la Marine de l'époque finit par interdire toute traduction. Finalement, Lalande obtient gain de cause et introduit les tables des distances lunaires, calculées en Angleterre et envoyées par Neville Maskelyne en 1772. Ça correspond au volume de la connaissance des temps pour 1774. Donc Lalande fait paraître 2 ans à l'avance, parvient à tenir les délais qu'il s'était imposés. Et donc, Lalande donc, fait paraître donc, ses tables de distance lunaire en 1772, avant de laisser sa place à Edmé-Sébastien Jorat, ancien élève de Lalande à l'école militaire et fondateur d'un petit observatoire sous les toits de l'école. Jorat puis Pierre Méchain vont engager des calculateurs auxiliaires, déjà recrutés par Lalande, sur ses fonds propres, pour effectuer tous les calculs fastidieux. Lalande a une certaine propension à déléguer les tâches pénibles. Jorat est aussi à l'origine de la création du premier poste officiel de calculateur de la connaissance des temps spécialisé dans les calculs des distances lunaires, Louis-Robert Cornelier-Lemery, qui sera calculateur pendant plus de 20 ans, rémunéré 1200 livres pour ses calculs, autant que pour un pensionnaire de l'Académie. Lalande et ses successeurs ont introduit dans la connaissance des temps donc, des notices et des exposés scientifiques, les adresses et domiciliations, comme je vous l'ai indiqué, et ce qui rend ces volumes très précieux pour les historiens, et j'insiste sur la conservation patrimoniale des collections de la connaissance des temps. Donc, à cette époque-là, la connaissance des temps représente désormais un gros volume de presque 700 pages. Depuis que le chevalier de Borda a codifié la méthode des distances lunaires après le voyage de la Flore en 1771-1773, il est devenu crucial de répandre le goût des observations astronomiques chez les marins. En 1785, le maréchal de Castres, puis l'officier Pierre Claret de Fleurieux, soucié de voir se répandre la culture astronomique chez les marins, font pression sur le baron de Breteuil pour que l'Académie sépare la connaissance des temps en 2 parties. Un extrait de 100 pages destiné aux seuls marins, vendu au moindre coût, une seconde partie destinée aux seuls astronomes. La connaissance des temps est devenue un ouvrage trop gros, trop cher pour les marins du commerce. Mais la méthode de Borda est elle-même une méthode très difficile pour les marins. Et voici ce que écrit Pierre Claret de Fleurieux en 1787-88. Puisque la formation des navigateurs est une formation où ils connaissent les 4 opérations de l'arithmétique, la manipulation de la règle et du compas, un peu le quartier de réduction. Évidemment, je parle des marins du commerce, puisque c'est ça l'enjeu. Ce n'est pas la dizaine d'officiers de l'Académie, enfin de la Marine royale qui va faire des navigations au long cours sur lesquelles l'histoire de la navigation s'est souvent polarisée. C'est les centaines de marins du commerce. L'enjeu, il est là. C'est la diffusion au plus grand nombre. Et c'est ce qu'avait commencé à faire l'abbé Lacaille. C'est-à-dire mettre à la portée du commun des navigateurs la méthode des distances lunaires. Mais ça pose de vrais problèmes. Le premier volume de la connaissance des temps, version almanach nautique avec extrait, paraît en 1789 pour l'année 1791. La Révolution vient faire avorter ce projet, même si Méchain et Lalande font tout leur possible pour produire les volumes pendant les heures sombres de la Terreur. 1795, la création du Bureau des longitudes Club durable et dispositif destiné à consolider une astronomie d'observation est créé par l'abbé Grégoire, Lacanal et Jérôme Lalande, comme l'a montré récemment Jean-Marie Furtet dans son magnifique travail sur les premières années du Bureau des longitudes, sa thèse de l'École des chartes. Les calculateurs en sont Lalande et Pierre Méchain. Méchain, alors, qui est administrateur du bureau des longitudes, donc en l'an 10, revendique la parution des éphémérides en relation avec la marine et demande en conséquence des fonds au ministère de l'Intérieur, ministère de tutelle. Alors c'est une lettre assez intéressante, parce qu'en fait, le ministre de la Marine propose d'engager des calculateurs du cadastre pour pouvoir, l'an 10 et 1802, pour pouvoir faire en sorte que la connaissance des temps interviennent, mais Méchain dit qu'il est préférable et que ça coûterait moins cher à l'État, tout en rendant service au Bureau des longitudes, d'engager 2 ou 3 calculateurs spécialement pour les calculs des distances lunaires. 1802, cette mesure a paru d'autant plus nécessaire et urgente que le travail de la connaissance des temps est considérablement en arrière. Et comme il est très, très instant de le remettre au courant, de s'assurer les moyens pour qu'il n'éprouve plus de retard, le bureau espère, citoyen ministre, que vous voudrez bien approuver les propositions que je viens vous présenter de sa part et qui lui ont paru les plus propres à atteindre ce but. Donc vous voyez, le nerf de la guerre, c'est l'argent pour pouvoir engager les calculateurs. Quelques calculateurs sont rémunérés. On a toujours Cornelier Lemery qui arrive quand même en fin de carrière. Ça fait déjà 25 ans qu'il calcule pour la connaissance des temps. Donc Jean-Baptiste Delambre prend la suite au décès de Lalande. Quelques calculateurs sont recrutés, Marion, Arros. Mais la connaissance des temps a repris son format et son volume d'avant la réforme avortée de Castres et de Fleurieu. Le statut de calculateur ne semble pas très enviable, travail lourd et peu rémunéré. Sous le régime du bureau des longitudes jusqu'en 1854, la direction de la connaissance des temps est collégiale. Il est assez difficile de savoir qui a fait quoi. Donc tout de même, certains numéros sont signés, les archives du bureau des longitudes aux archives nationales permettent de faire le tri dans ces acteurs. Ainsi, quelques noms ressortent, Largetot, donc Charles-Louis Largetot, et celui de Le Baillif Ménager, l'un des grands calculateurs de la connaissance des temps à la longévité remarquable pendant près de 40 ans, de 1809 à 1855. Son record ne sera battu que par Schulhoff, qui calculera près de 50 ans à partir des années 1860 jusqu'au début du XXe siècle. Seul ce dernier aura bénéficié d'un avancement de carrière et terminera son activité avec une retraite raisonnable pour l'époque, environ 4000 francs. Les additions, donc sous le régime, sous la première partie du bureau des longitudes jusqu'en 1854, les additions sont importantes et de très nombreux mémoires ne sont publiés que dans la connaissance des temps. Toujours cette importance patrimoniale sur laquelle j'insiste, puisque les collections sont menacées réellement. Jean-Baptiste Biot sur les réfractions et la physique météorologique, les travaux sur la théorie de la Lune de Pontécoulant, sur le magnétisme et la boussole de Poisson, des orbites et étoiles doubles d'Yvon Villarceau, sur la géographie, les longitudes de Dossi, etc. La liste est très très longue. Un de mes travaux pour l'ouvrage que je projette, ça a été justement de compiler les tables qui ont été produites et de compléter les manques, c'est-à-dire en épluchant année par année les volumes, et on a une richesse bibliographique fantastique qui a été très peu utilisée même par les historiens de l'astronomie ou de la navigation. En 1829, des modifications importantes sont apportées, et à cette époque, déjà, quelques critiques se font jour, principalement émanant des professeurs d'hydrographie et de marins dans les Annales maritimes ou la Revue maritime et coloniale, les revues plus ou moins officielles du ministère de la Marine. Les imprimeurs de la connaissance des temps sont Coursier et sa veuve, puis Bachelier. Nous ne savons pas quel type de contrats ont été passés et il est très difficile de savoir à combien d'exemplaires sont tirés la connaissance des temps. Tout ce que l'on peut dire sur le témoignage de Louis Figuier qu'il donne en 1861, c'est que, même sous le règne d'Arago, ce sont les éphémérides du Nautical Almanach qui sont employés à l'observatoire. La concurrence d'ailleurs avec le Nautical se fait de plus en plus sentir au détriment de la connaissance des temps. Le grand virage survient avec l'épisode de la réorganisation où certains pensent de la désorganisation de l'astronomie française, qui sépare les directions du bureau des longitudes et de l'observatoire. On sait que ce décret a été inspiré, presque dicté par Le Verrier, qui en faisait une affaire personnelle. Les critiques sont rudes concernant le bureau des longitudes et la connaissance des temps. Voici quelques citations extraites de documents qui figurent aux archives nationales. L'une provient d'un certain Coulier, l'autre d'un brouillon d'un mémoire que Le Verrier a remis au ministère de l'Instruction publique. Donc la première extrait, 1854, donc Coulier a écrit un ouvrage sur la description des phares et critique fortement les travaux de Dossi, qui est membre du bureau des longitudes, mais l'un des ingénieurs hydrographes et marins du bureau. Et le bureau des longitudes répond sur la procédure et la calomnie que Coulier apporte à Dossi. Et donc Coulier écrit « Cette importante publication, la connaissance des temps, est en réalité l'unique objet que se propose et puisse se proposer le bureau des longitudes. Le jour où le bureau cesserait d'être appelé à rédiger cette publication marquerait fatalement le terme de son existence. L'institution n'ayant plus sa raison d'être, elle ne pourrait être soutenue que pendant un temps très court par la haute bienveillance de l'administration supérieure. Cet appui lui ferait un jour certainement défaut et dès lors elle se trouverait irrévocablement condamnée. » Le texte de Le Verrier est à peu près du même tonneau, en gardant tout de même, si on garde le bureau des longitudes, il faut le remanier en profondeur, réduire le nombre de ses membres et se doter d'un véritable bureau des calculateurs. En même temps, ça fait longtemps, Le Verrier dit qu'on a averti le bureau des longitudes, mais cela n'a rien produit. En même temps, donc, Le Verrier dit, un fonctionnaire doit être spécialement chargé de la publication. Les hommes de science sont jaloux de leur travail. Ils en veulent recueillir l'honneur. Nous connaissons les rédacteurs des éphémérides étrangères, Henke à Berlin, Hint à Londres. Il doit être de même en France. Autre citation de Le Verrier. Le bureau déchargé du travail de la connaissance des temps doit-il être maintenu ? À l'appui de la conservation du bureau, on peut dire qu'il constitue une retraite pour les astronomes qui ne sont plus en état de travailler. Plusieurs des membres, pressés de pourvoir à l'amélioration de la connaissance des temps, s'en sont défendus sur ce que le bureau n'est qu'une retraite. Ils allaient ainsi au-devant de la nécessité d'une modification. D'un autre côté, il faut trouver l'argent nécessaire pour une rédaction convenable du recueil. Et en l'état actuel, le traitement des 16 membres du bureau absorbe les fonds. Si donc le bureau est conservé, une forte diminution du nombre de ses membres est du moins indispensable. Comment devra-t-on l'opérer ? Vous connaissez la suite, c'est le décret de 1854 qui donne un nouveau statut au bureau des longitudes et qui conforte son rôle de rédacteur de la connaissance des temps. Si on peut douter des motivations de Le Verrier dans ses critiques, d'autres plus sérieuses émanent à la même époque des marins, et d'un en particulier qui deviendra célèbre en devenant le premier marin directeur de l'Observatoire de Paris, le lieutenant de vaisseau Ernest Mouchet. En 1755, à l'occasion de la présentation de sa lunette méridienne portative pour les relevés hydrographiques, Mouchet fait quelques remarques sur la non-adéquation de la connaissance des temps aux besoins des marins et les difficultés de se la procurer. Les marins se retournent donc vers le nautical. Même chose en 1866, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, où Mouchet, devenu capitaine de frégate, discute d'erreurs de longitude géographique publiées par Dossi, qu'il a remarquées lors de son expédition hydrographique au Brésil, et notamment les fausses coordonnées de l'observatoire de Rio, dirigé par Lié. Et Mouchet est appuyé par l'amiral Paris, qui est déjà membre du bureau des longitudes. La réorganisation du bureau des longitudes s'opère donc dans des difficultés matérielles. Pas de locaux fixes jusqu'en 1874, où il intégrera le palais de l'Institut où nous sommes aujourd'hui. Le bureau des longitudes est alors obligé de louer une maison dans Paris pour ses réunions s'il ne peut pas les tenir à l'observatoire ou dans les locaux de l'Académie. Les calculateurs, le plus souvent, travaillent à domicile avant d'être logés dans un appartement loué dans la maison où vit Claude Louis Mathieu, qui est à ce moment-là le rédacteur de la connaissance des temps. Il est donc alors assez difficile pour le bureau des longitudes de produire dans les temps les éphémérides et d'assurer une qualité parfaite. Les années 1861-63 sont marquées par quelques autres épisodes et échanges vigoureux à l'Académie des sciences entre Le Verrier, Claude Louis Mathieu et Liouville. Certains détails sont donnés dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, mais l'essentiel et quelques notes inédites nous sont données par Louis Figuier dans son année scientifique et industrielle. Le Verrier reproche en gros à la connaissance des temps de ne pas faire figurer l'étape de Neptune. Mathieu répond par des problèmes techniques, mais la critique est en fait plus profonde. On n'y trouve pas les éphémérides des petites planètes, les étoiles sont en nombre trop faible, les valeurs des positions sont en minutes d'arc, alors que les observations astronomiques sont de l'ordre de la seconde d'arc. Bref, les astronomes ne font aucun usage de la connaissance des temps et se retournent vers le nautical. Anglais. Donc, Le Verrier se refuse, comme je vous ai dit, en plus, il réaffirme de voir la connaissance des temps réduite à un almanach nautique et finalement trouve que le bureau des longitudes ne fait pas son travail. Durant les mêmes années, des numéros de la connaissance des temps ne sont pas livrés à temps ou ne sont plus disponibles dans le commerce. Des plaintes remontent au ministère concerné, instruction publique et ministère de la Marine. Ainsi, lorsque Otto Struve formule les rudes critiques que j'ai déjà citées au début de cette conférence, il n'a pas tout à fait tort. Les milieux astronomiques et marins sont relativement mécontents des éphémérides de la connaissance des temps. Et pour cause, en 1868, par exemple, devant le retard qui s'accumule, Mathieu et Delaunay pensent faire appel à des étudiants de l'école normale supérieure pour effectuer certains calculs des phases des éclipses pour certains chefs-lieux. Le futur président de l'Académie, Faye, préfère se retourner plutôt vers des professeurs d'hydrographie et d'astronomie, notamment à l'école navale. Delaunay, notamment lors de la séance du 8 janvier 1868, propose de donner une gratification de 20 centimes au concierge qui fait le service du bureau des calculs et de porter son traitement mensuel à 15 francs, ce qui est adopté en séance au bureau des longitudes. Delaunay rend un compte-rendu très positif du travail effectué par les calculateurs chargés des tables de la Lune, ce qui est une grande entreprise qui absorbe l'essentiel de l'activité des calculs des calculateurs du bureau des longitudes, même si un recrutement exceptionnel a été effectué pour cette œuvre. Juste une parenthèse, donc à ce moment-là, les tables de la Lune qui sont utilisées pour calculer les tables des distances lunaires sont des tables allemandes publiées par l'amirauté britannique, les tables de Hansen, et Delaunay a travaillé donc à développer sa théorie de la Lune, qui sera publié, enfin, va mettre 60 ans à être publié à partir des années 60, et ça se termine au début du XXe siècle. Et on espère, au Bureau des longitudes comme à l'Académie des sciences, que la théorie de la Lune soit une théorie définitive. Malheureusement, au moment où paraissent les tables de Delaunay, de nouvelles tables de la Lune, beaucoup plus précises et sur des bases très différentes, celles de Brown et de Hill, eh bien, rendent le travail de Delaunay non pas caduque, mais beaucoup moins important qu'il ne l'a été. Donc, aux critiques déjà mentionnées s'ajoutent quelques critiques sur des écarts observés sur les longitudes géographiques données dans les tables de la connaissance des temps et du nautical. C'est aussi le sens de certaines critiques publiées dans des revues astronomiques professionnelles, telles que celles données en 1874 dans l'Astronomical Register, qui liste les manques de la connaissance des temps par rapport au nautical. Bon, j'ai déjà mentionné ça, c'est les éphémérides des petites planètes, la configuration des satellites de Saturne, les phases de Vénus, etc., etc. Donc on a une critique assez longue et très, très forte et très profonde de ce qui manque. Donc en 1872, les attaques deviennent plus frontales. La revue scientifique, puis Paul Bert, attaque de front. Et en novembre 1872, pose la question assassine devant la place publique et l'Assemblée nationale. À quoi sert le Bureau des longitudes ? Il semble que l'attaque a été motivée par la démission de Victor Puiseux du Bureau des longitudes et de la rédaction de la connaissance des temps. On invoque des raisons de santé, mais il semblerait que l'usure suite aux attaques incessantes de Le Verrier en soit la cause majeure. La revue scientifique ne mâche pas ses mots. Citation. Le seul membre actif du Bureau des longitudes était le savant et consciencieux M. Puiseux. Il s'était mis avec ardeur à la tâche ingrate de réformer et d'améliorer la connaissance des temps. Malgré la résistance et l'inertie de la majorité du bureau, il avait déjà complètement transformé ce recueil qui, dans ses mains, n'aurait pas tardé à rivaliser avec le Nautical Almanach, peut-être même à le dépasser. Puiseux ne souhaite pas conserver sa pension de 5000 francs et démissionne pour que le bureau ait les fonds nécessaires pour poursuivre la tâche. Évidemment, se pose la question, mais alors que font les autres membres du Bureau des longitudes qui, eux, vont conserver leur pension ? Donc le député et médecin Paul Bert rebondit et soutient que le Bureau des longitudes ne remplit pas sa tâche. Il propose de le remplacer comme en Angleterre par un bureau chargé spécialement des calculs, avec un budget ne dépassant pas toutefois 40 000 francs. En même temps, Paul Bert pose la question de la faiblesse des allocations attribuées aux sciences astronomiques et si ces sommes étaient employées au mieux pour le bien des sciences. Double question. Faye répond sous le couvert de l'Académie des sciences et dans un long plaidoyer prend la défense du Bureau des longitudes le 23 décembre 1872, qu'on peut lire dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. Aujourd'hui, les temps sont durs. La France a subi d'effroyables revers. On sort de la guerre de 1870-71 avec des dommages de guerre importants. Si la petite dotation du Bureau des longitudes était nécessaire, nous serions les premiers à en proposer l'abandon. Mais malgré ces malheurs, la France n'en est pas réduite à de tels sacrifices. Loin de là, elle veut recueillir, ranimer, développer même ses institutions scientifiques. Pour elle, ce n'est pas une charge, c'est une compensation. Et nous sommes convaincus que le pays, éclairé sur ses véritables intérêts, ne consentira pas à supprimer le Bureau des longitudes. Nous demandons au contraire qu'on le garantisse de toute tentative d'amoindrissement en lui donnant les moyens d'action qu'il n'a cessé de réclamer. Donc cette passe d'armes conduit au règlement de 1874 qui confirme le Bureau des longitudes en lui attribuant aussi la formation des explorateurs. Alors j'ai montré par ailleurs combien la création par Mouchet et le Bureau des longitudes de l'Observatoire de Montsouris répondait à ce volet, à cette exigence et permettait au Bureau des longitudes de retrouver une partie de sa légitimité. Mouchet et Levy apparaissent pour moi comme les principaux moteurs avec Faye du redressement du Bureau des longitudes dans ces années-là, et l'Observatoire de Montsouris assoit la légitimité du Bureau vis-à-vis de la Marine. En 1872, donc, Maurice Levy succède au tandem Claude-Louis Mathieu et Victor Puiseux qui assuraient la rédaction de la connaissance des temps. Les deux hommes sont âgés et malades. Avec l'accord du Bureau, le soutien de Faye et des marins du Bureau, Maurice Levy opère des réformes structurelles profondes et va en quelques années, mener des réformes du Bureau des calculateurs. Les archives sont plus claires sur les charges et les salaires des calculateurs de la connaissance des temps. Levy est très soucieux d'améliorer les conditions de travail et de carrière de ses calculateurs. Il restructure le Bureau, rend ses assistants responsables, en somme, en créant progressivement 4 classes de calculateurs avec progression de carrière et passe de nouveaux contrats avec Gauthier Villars. En 1879, la connaissance des temps donc, passe à 4 francs. L'annuaire et la connaissance des temps coûtent environ 23 000 francs au Bureau des longitudes sur un budget total de 120 000 francs environ qui va descendre aux alentours de 93 000 francs dans les années suivantes. Dans les années 1870, plusieurs audits montrent que le Bureau des longitudes ne sait pas à combien d'exemplaires la connaissance des temps est tirée. Elle n'obtient qu'en 1876 la liste des observatoires qui reçoivent gratuitement la connaissance des temps. Bref, c'est un peu le bazar. Malgré les efforts de Levy, Hervé Faye est obligé de venir régulièrement défendre tout ce travail en venant présenter les améliorations apportées à la connaissance des temps devant l'Académie des sciences, ou bien de se fendre de plusieurs lettres au ministre de l'Instruction publique pour expliquer combien le Bureau des longitudes s'efforce de redresser la barre en tenant compte des contraintes budgétaires que lui impose le gouvernement. Voici par exemple une citation datant de l'année 1888. La connaissance des temps est parvenue depuis quelques années, grâce aux perfectionnements successifs introduits par le Bureau, à satisfaire à tous les vœux des astronomes et des navigateurs. Le Bureau n'a plus qu'à la maintenir à ce niveau élevé. Nous nous plaisons à reconnaître tout ce que le Bureau doit, à cet égard, au zèle et à la haute science de M. Levy, chargé de la rédaction, de la direction des calculs et de la publication de ses éphémérides, parvenu aujourd'hui à leur 211e volume annuel. Exemple de ces contraintes, en 1891, un petit peu plus tard, le ministère demande au Bureau des longitudes de transférer le contrat à l'imprimerie nationale. Faye et Bouquet de la Grille répondent négativement dans un mémoire très très riche d'informations pour l'histoire de la connaissance des temps. Alors voici quelques informations, je ne vais pas tout vous lire. Le Bureau publie chaque année les ouvrages suivants. L'annuaire du Bureau, la connaissance des temps, l'extrait de la connaissance des temps en 1891 et les éphémérides d'étoiles. Ces publications sont faites matériellement par les soins d'un éditeur-imprimeur, M. Gauthier-Villard, en vertu d'un marché de conventions annexes qui ont amélioré au bénéfice de l'État les conditions du marché. La clause principale est un forfait moyennant lequel l'éditeur s'engage à publier l'annuaire et la connaissance des temps dont le nombre de pages est fixé par le traité. Un supplément est dû pour chaque feuille en surplus. L'éditeur livre gratuitement 250 exemplaires de l'annuaire du Bureau et 100 exemplaires de la connaissance des temps, etc. etc. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est très technique. Bref, Faye montre que si l'impression passait à l'imprimerie nationale, d'abord, les contrats sont très stricts, ça coûterait deux fois plus cher pratiquement, etc. Et que ce n'est même pas sûr qu'on puisse avoir les exemplaires gratuits qui sont diffusés soit au ministère, soit aux observatoires. Bon, on a des informations sur le coût de la connaissance des temps, etc., et du rôle que joue Gauthier Villard dans la publication de la connaissance des temps. Donc, Faye et Bouquet de la Grille terminent comme ça. Ce que nous pouvons et ce que nous devons faire, c'est au renouvellement prochain du marché d'obtenir de Gauthier Villard de nouvelles concessions. Je lui ai demandé hier de faire des propositions plus avantageuses pour l'État en abaissant la redevance, le prix des feuilles supplémentaires, en augmentant le nombre de ceux livrés gratuitement pour que nous en achetions le moins possible, etc. etc. Les factures de l'imprimerie nationale sont irréductibles et en se servant de cet établissement, on ne sait pas où l'on va, mais on y va. Autre grand tournant, 1885-1887. En avril 1885, le lieutenant de vaisseau Émile Guyou, alors professeur de navigation à l'école navale de Brest, demande au Bureau des longitudes, une demande qui est relayée par Mouchet et le ministère de la Marine, un dédoublement de la connaissance des temps, qui comporte pratiquement 700 à 800 pages par an. Ce mémoire est appuyé par une demande d'Edmond Dubois, examinateur d'hydrographie, un proche de Mouchet, qui se propose dans ce but de faire la publication et les calculs des éphémérides du Soleil pour les mettre au cabotage. Guyou propose une partie spéciale destinée aux astronomes, l'autre comme le vade-mecum de l'officier des montres. L'examen provoque la discussion technique sur des détails, des notations, etc. Mais Mouchet et l'amiral Paris soulignent l'intérêt de la publication d'un abrégé de la connaissance des temps. On peut voir dans les diverses demandes qu'après 100 ans, presque jour pour jour, se rejoue la même scène que celle qui avait conduit l'Académie royale des sciences et Méchain à publier un abrégé de la connaissance des temps en 1789. Sous la demande express du ministre de la Marine, le maréchal de Castres, et de Pierre Claret de Fleurieu. Le Bureau refuse tout d'abord, mais comme le ministère de la Marine relaye des demandes des marins et que ceux du Bureau des longitudes appuient l'affaire, notamment en 1887, des navires de guerre qui sont aux colonies au Tonkin n'ont pas pu se procurer la connaissance des temps, ce qui provoque la fureur de Bouquet de la Grille et de Mouchet qui demandent à Gauthier Villard d'organiser des dépôts dans les colonies. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est que lors de l'examen de cette affaire, le Bureau des longitudes découvre avec stupeur que des extraits sont publiés à Saint-Brieuc depuis 1837 avec les éphémérides nautiques de François-Vincent Dubus ou Jean-François Dubus et qu'elles sont poursuivies par Edmond Dubois depuis 1870 qui publie à part les éphémérides nautiques pour les marins du commerce. Vous avez ici l'éditeur des éphémérides d'Edmond Dubois pour l'année 1870. Je vous livre l'avertissement de l'ouvrage parce qu'il est très très clair. Nous continuons aujourd'hui une publication que nous avons entreprise il y a 33 ans d'après l'offre qui nous en avait été faite par M. Jean-François Dubus, professeur d'hydrographie à Saint-Brieuc. Pendant ce long espace de temps, ce savant professeur a bien voulu vérifier l'exactitude des nombres que nous extrayons chaque année de la connaissance des temps, calculés d'après les formules de Laplace, notamment théorie de 1844, les retards et centièmes de marée sur les côtes de France, et enfin rédiger l'explication des tables nautiques contenues à la fin de notre recueil. Monsieur Edmond Dubois, ancien officier de marine, professeur d'hydrographie de première classe à l'école navale impériale, a bien voulu se charger actuellement du travail effectué pendant de si longues années par monsieur Dubus. Heureux d'avoir pu obtenir le concours d'un homme dont le nom est estimé d'une si grande considération, nous espérons que messieurs les marins voudront bien nous accorder encore la confiance qu'ils nous ont témoignée jusqu'à présent. Et de notre côté, nous pouvons leur assurer que nous n'épargnerons rien pour continuer à le mériter. Donc il s'agit de volumes d'une centaine de pages, adaptés aux besoins d'une navigation au cabotage, avec juste ce qu'il faut pour faire le point. La cause est entendue, après 2 années de discussion, en juin 1887, le bureau des longitudes plie et demande l'étude d'un projet pour extraire de la connaissance des temps, 1889 apparaître, ce qu'il est juste nécessaire pour publier l'extrait. Cette décision est suivie d'un arrêté ministériel daté du 13 juillet 1887 et paraît la première version de nouvelles éphémérides vraiment nautiques avant que les Anglais fassent de même, juste 1 ou 2 ans plus tard. Donc c'est extrait de la connaissance des temps à l'usage des écoles d'hydrographie et des marins du commerce qui deviendront en 1916 extrait de la connaissance des temps à l'usage des marins, puis prendra le nom d'éphéméride nautique. Il faut voir un petit peu que toute cette discussion est aussi liée à l'évolution des méthodes de l'astronomie nautique. En Angleterre, par exemple, un astronome anglais et professeur d'hydrographie veut qu'on s'en tienne à la droite de hauteur. Sir William Thomson, durant une conférence publique à Glasgow, a déclaré que ce serait une grande bénédiction pour les vieux et les jeunes marins si toutes les méthodes autres que celles de Sumner pouvaient être retirées des programmes d'instruction. Juste un petit mot sur cette méthode de Sumner. En fait, Mouchet dit dans un texte que lui connaissait cette méthode-là, qui est simplement l'utilisation des hauteurs d'un astre un petit peu poussé plus loin, mais qu'il connaît cette méthode dite américaine depuis les années 1850, qu'il l'utilisait en mer, où en fait on va donc chercher, en mesurant la distance zénitale, l'ensemble des points sur la Terre qui permet de mesurer cette même hauteur de l'astre sur l'horizon. Et donc en faisant plusieurs points, on arrive à trouver une intersection, c'est ce qu'on appelle l'intercept. Mais certains connaissent ça beaucoup mieux que moi ici, sans doute, et qui permettent de déterminer la trajectoire la plus probable sur la mer. Donc il faut faire plusieurs observations, mais les méthodes astronomiques sont réduites à leur plus simple expression. Donc on n'a plus besoin de faire trop de trigonométrie sphérique, on peut en faire un petit peu, mais en tout cas il y a plusieurs méthodes, et là aussi on va avoir des méthodes avec calcul sans logarithme ou avec logarithme, etc. On a toute une littérature articulée autour des variantes de ces méthodes-là. Ce qui est important, c'est qu'avant on avait des méthodes de latitude et de longitude séparées, et qu'ici, dans l'idéal, la droite de hauteur donne latitude et longitude en même temps. Bon, on a des discussions orageuses entre Mouchet et Yvon Villarceau. J'ai montré dans un article récent que depuis 1750 et les débats sur la diffusion des méthodes de l'astronomie nautique, on observe des oppositions récurrentes entre astronomes soucieux de l'adaptation des méthodes aux besoins et pratiques réelles des marins et des astronomes puristes davantage tournés vers la théorie et voyant mal des simplifications ou des adaptations bas de gamme. Ce qui est encore confirmé par le fait qu'Émile Guyou publie en 1891 de nouvelles éphémérides astronomiques pour 1891 préparées en vue de simplifier et faciliter les calculs de navigation qui sont présentés par lui comme un essai en vue de hâter le dédoublement de la connaissance des temps. Donc Émile Guyou rentre au bureau des longitudes et il sera membre de l'Académie des sciences 2-3 ans plus tard. Guyou essaye d'éviter le calcul du temps sidéral. Il fait des calculs en temps moyen pour les calculs de la droite de hauteur et le calcul de l'angle horaire. Proposition qui, selon Guyou, a reçu l'aval des officiers de marine, mais dédaignée et jugée inutile par des astronomes qui voient mal ajoute Guyou, l'adaptation d'éléments utiles pour le calcul à la mer. Et ce sont les mêmes genres d'arguments qui sont présents dans la querelle Mouchet-Yvon Villarceau dans les années 1876-1879. Mouchet demande des calculs rapides, simples et aisément vérifiables par les marins, alors qu'Yvon Villarceau privilégie des développements de Taylor et autres pour la réduction des dérives des marges des chronomètres. Quoi qu'il en soit, en 1891, le Bureau des longitudes ne parvient pas à sortir la connaissance des temps 3 ans à l'avance, juste 2 ans à peine, et Levy demande de nouveaux fonds pour impliquer davantage de calculateurs pour remplir cette partie du contrat. Malheureusement, le ministère ne suit pas. Le Nauticol sort toujours en avance sur la connaissance des temps. En 1893, par exemple, le Nauticol pour 1896 est déjà sorti et les Anglais ont aussi adopté une division en 2 parties. Les tables des distances lunaires sont de fait ainsi supprimées du Nauticol Almanach, qui devient un volume essentiellement d'éphémérides astronomiques. En 1895, l'instruction publique relaye une demande de la Compagnie des messageries maritimes qui n'a pu se procurer des volumes de la connaissance des temps et des extraits auprès de Gauthier Villars. 1893, de nouveaux couacs surviennent. Une erreur de typographie dans la connaissance des temps provoque la réaction d'un candidat malheureux au bureau des longitudes, un marin appartenant au bureau des ministères de la Marine, un certain Banaret. Le bureau des longitudes reçoit des lettres des ministères et les gazettes parisiennes, le Figaro, et notamment le matin du 23 janvier 1893, publie quelques articles dénonçant les 67 causes de naufrage au bureau des longitudes. Et le texte suivant. Dès que ce fait inouï a été reconnu vrai, le ministère de la Marine a dû faire publier en toute hâte un avis aux navigateurs pour leur recommander de ne pas ajouter foi aux chiffres de l'annuaire du bureau des longitudes pour 1893. Alors, en fait, il y a une petite ambiguïté sur le fait que les erreurs soient dans l'annuaire ou la connaissance des temps. Les erreurs sont dans la connaissance des temps. Il faut espérer que cet avis parviendra assez à temps en tous les pays du globe pour éviter les sinistres maritimes dus à de calculs erronés. Mais avouez que la chose est raide. Est-ce que tout se détraquerait dans notre pauvre France ? Voilà nos astronomes officiels qui, eux aussi, commettent des bévues, et des bévues qui peuvent occasionner des pertes de navires. Point d'exclamation. Alors, on parle que les astronomes se retournent vers les typos. C'est la faute aux typos. On les voit aussi dans l'article du Figaro dénoncé comme les astronomes mangeurs de budget, etc., etc. Enfin, l'évolution des méthodes et l'internationalisation des éphémérides qui se concrétisent par la Conférence internationale des éphémérides astronomiques en mai 1896 conduisent le BDL à envisager puis adopter la suppression des tables des distances lunaires de la connaissance des temps entre 1901 et 1903. C'est Guyou qui, en janvier 1901, lance une enquête auprès des ministères de l'Instruction publique et de la Marine sur la fréquence d'utilisation des distances lunaires qui, de l'avis des officiers, est tombée en désuétude. Depuis que la plupart des navires sont équipés de chronomètres plus ou moins bons et que, évidemment, la méthode des droits de hauteur, Sumner ou point Marc Saint-Hilaire, se diffuse. Mais Guyou, déjà en 1896, reconnaissait qu'effectivement, les distances lunaires sont désuètes. L'auteur de ces pages, pendant une longue expérience à la mer sur toute espèce de navire, depuis les porteurs de charbon jusqu'aux navires postaux de première classe, n'a pas rencontré une douzaine de personnes qui aient fait usage personnellement des distances ou qui en aient vu faire usage. La question du plus ou moins d'utilité de l'étude de ce problème peut encore être discutable dans l'esprit de quelques personnes, mais ce qui est bien certain, c'est que les distances sont tombées en désuétude et qu'elles sont aussi mortes que Jules César. Et sans le moins du monde se poser en prophète, l'auteur se risquera à dire qu'elles ne ressusciteront jamais, et cela pour la meilleure des raisons, c'est qu'on n'en a plus besoin désormais. Et en fait, l'enquête montre que, auprès du ministère de la Marine, donc c'est une enquête menée en 1901, que depuis 1885, le ministère de la Marine n'a aucune information sur l'usage dans les journaux de bord des distances lunaires. Donc le 30 janvier 1901, M. Levy dit que le calcul et l'impression de ces tables a coûté pour 1903 la somme de 3170 francs et que leur suppression constituerait donc une économie appréciable et il est certain qu'on n'en fait plus usage pour la navigation. Après des discussions techniques et les oppositions de principe, les distances lunaires sont donc définitivement supprimées de la connaissance des temps en 1902, année de la publication du premier volume de la connaissance des temps. Elles demeurent encore dans l'extrait de la connaissance des temps pendant quelques années, mais à partir de 1910, elles sont aussi supprimées de l'extrait. Donc, sans les distances, le Bureau des longitudes, donc à la demande de l'instruction publique, va continuer pendant quelques années à donner une méthode pour indiquer comment calculer une distance lunaire au cas où. Donc voilà comment la connaissance des temps est devenue et n'a plus été un almanach nautique. Que peut nous apprendre cette histoire ? D'abord, qu'elle est indissociable des bouleversements que subit le Bureau des longitudes au cours de son histoire et de l'évolution de ses structures internes. Elle traduit les tensions entre astronomes purs et durs et astronomes soucieux de leur implication dans le rôle que doit jouer cette science à un moment donné dans ses relations avec ses domaines d'application. Elle est aussi liée, évidemment, aux moyens matériels qui sont attribués au Bureau des longitudes, qui doit faire avec une somme qui est environ le quart de celle dont bénéficie le Bureau des longitudes britannique pour publier le Nautical Almanac avec 9 calculateurs. Au XVIIIe siècle, Lalande transforme la connaissance des temps en un almanach nautique, qui est alors un enjeu essentiel de l'astronomie de navigation. La connaissance des temps, comme seul outil astronomique scientifique, ne remplissait pas son rôle. Au XIXe siècle, s'opère un renversement complet de la situation créé par l'évolution de l'astronomie elle-même. La position du savant change, les structures évoluent et des tensions fortes se créent à différents endroits du champ de l'astronomie. Le Verrier se refuse à voir la connaissance des temps comme un almanach nautique, alors que le besoin de publications adaptées aux marins est plus que nécessaire devant le renouvellement croissant des méthodes astronomiques de navigation. Mouchet va développer pour la dernière fois un pôle nautique avec l'Observatoire de Montsouris, l'un des outils du redressement du Bureau des longitudes à la fin du XIXe siècle et entrant dans le cadre du décret des changements de statut de 1874, mais vite oublié après la guerre car inadapté à la mutation de l'astronomie en cours, structure inadéquate, désengagement complet de l'astronomie nautique. C'est justement cette mutation d'astronomie qui rend nécessaire des éphémérides astronomiques de haute qualité. Finalement, le Bureau des longitudes est pris entre les tensions internes, querelles de personnes, de pouvoir, d'orientation scientifique. Il est pris entre les contradictions et les incompatibilités des choix faits pour publier des éphémérides ou astronomiques ou nautiques. L'orientation nautique semble, après Lalande, avoir toujours été subie pour justifier l'existence et l'action du Bureau des longitudes. Ce choix par défaut, structurel, a conduit aux crises de 1854 et de 1872, ce qui n'a pas été le cas au Nautical puisque sa mission a été d'emblée assumée et les fonds nécessaires octroyés. L'élément nouveau est la redécouverte des éphémérides maritimes publiées à Saint-Brieuc qui jette un énorme doute sur l'emploi effectif de la connaissance des temps dans la marine marchande. La connaissance des temps me semble avoir été l'un des outils par défaut chez les marins de la Royale quand le Nautical n'était, pour de simples raisons matérielles, pas disponible. Chez les astronomes, la cause est à peu près entendue et argumentée. La connaissance des temps n'a, au XIXe siècle, jamais été l'ouvrage de référence. Le Nautical apparaît d'autant plus comme la référence absolue en matière d'éphéméride astronomique et nautique depuis sa parution à la fin de l'année 1766. La connaissance des temps ne fut jamais le bréviaire des astronomes et des marins, malgré les efforts louables et désintéressés d'un certain nombre de membres du Bureau de longitude qui y ont laissé une énergie folle et de la part d'un grand nombre de marins et d'officiers du dépôt des cartes et plans de la marine, actifs et passionnés. La connaissance des temps demeure un bien inestimable patrimonial et c'est, comme je l'ai dit, pour toutes les mémoires scientifiques et l'abondance de petits détails scientifiques et historiques qui parsèment la collection. Je vous remercie beaucoup.
C'était Guy Boistel, docteur en histoire des sciences et des techniques. Il examinait l'histoire de la connaissance des temps, la plus vieille éphéméride astronomique, sous l'angle des relations entre astronomes et marins, au temps de Jérôme Lalande, immortel de l'Académie des sciences. Cette communication s'est déroulée au Bureau des longitudes, à l'Institut de France. Consultez la programmation de ces conférences sur le site www.bureau-des-longitudes.fr. Elles sont ouvertes au public. Et puis sachez par ailleurs que ces conférences du Bureau des longitudes sont retransmises sur Canal Academy. Vous les retrouverez dans les émissions en colloque ou en cliquant sur le thème astronomie. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.